Bonjour à tous et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 21 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le chef de l'opposition mozambicaine appelle à 3 jours de deuil à partir d'aujourd'hui pour les 50 personnes qui, selon lui, ont été tuées dans les violences post-électorales. En Haïti, la police et des habitants de Port-au-Prince ont tué 28 membres de gang. Le président brésilien, hôte du sommet du G20, appelle à ne pas relâcher la pression pour faire aboutir les négociations sur le climat à Bakou. Et dans notre partie magazine, ici aux États-Unis, alors que le président élu Donald Trump se prépare à prendre ses fonctions, un processus soigneusement coordonné est en cours pour transférer le pouvoir de l'administration sortante à la nouvelle.
Nous voulons nous assurer que le président réussisse. Donc s'ils veulent revoir la politique, nous allons les aider à le faire en leur disant ce que nous savons et en leur expliquant ce qui se passe.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le chef de l'opposition mozambicaine appelle à 3 jours de deuil à partir d'aujourd'hui pour les 50 personnes qui, selon lui, ont été tuées dans les violences post-électorales. Le président Philippe Nyusi a de son côté appelé au dialogue pour mettre fin à des semaines d'agitation. Alexandrine Holognon.
Dans un discours prononcé mardi sur Facebook, Venancio Mondlane a de nouveau exigé un recomptage des voix du scrutin du 9 octobre qui, selon la commission électorale, a été remporté par le parti Frelimo au pouvoir depuis près d'un demi-siècle. Le président Nyusi, dans un discours sur l'état de la nation prononcé plus tard dans la journée de mardi, a condamné une tentative d'installer le chaos dans le pays. Il a appelé au calme jusqu'à l'annonce des résultats définitifs et a demandé aux partis d'exercer leur droit de manifester dans le respect de la loi. Les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe se réunissent ce mercredi à Harare pour un sommet qui devrait aborder les troubles au Mozambique, entre autres questions régionales. Kanyo Farise, directeur adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, a déclaré que le sommet devait prendre des mesures concrètes concernant ces violations des droits de l'homme, notamment en les dénonçant.
Le commandant de l'armée soudanaise et dirigeant de facto du pays, Abdel Fattah al-Burhan, a rejeté ce mardi toute ingérence étrangère dans la guerre au Soudan au lendemain du veto russe à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu. Il a par ailleurs salué la position de soutien de la Russie. Le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU préparé par le Royaume-Uni et la Sierra Leone appelait les parties à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager dans un dialogue sur un cessez-le-feu national. Le général Burhan a réitéré que l'armée ne négocierait ni n'accepterait un cessez-le-feu sans un retrait total des paramilitaires des forces de soutien rapide. Le chef du principal parti d'opposition, Abdirahman Mohamed Abdoulaye Diiro, a été élu président du Somaliland, région sécessionniste de la Somalie au cœur de vives tensions dans la Corne de l'Afrique. Avec 63,92% des suffrages, cet ancien diplomate âgé de 68 ans dévance largement le président sortant Moussé Bihi, qui a obtenu 34,81% et au pouvoir depuis 2017. Le leader du parti de la justice sociale, Faisal Ali Warabe, s'en sort avec 0,74% selon des résultats annoncés par le président de la commission électorale. Territoire de la pointe nord-ouest de la Somalie, le Somaliland a autoproclamé son indépendance en 1991, mais n'est reconnu par aucun pays. Le Botswana veut diversifier son économie actuellement dépendante du diamant en se lançant sur le marché du cannabis thérapeutique et de l'énergie solaire, a annoncé hier le président Douma Boko lors de son premier discours à la nation. Les détails avec Nani Talani.
Dans son discours, Douma Boko a souligné la nécessité de réduire la dépendance au diamant, dont les revenus ont chuté de plus de 60% ces dernières années en raison de la concurrence des pierres synthétiques. Le Botswana, qui bénéficie de plus de 3200 heures de soleil par an, met également l'accent sur le potentiel de l'énergie solaire pour stimuler son développement. En parallèle, le Botswana prévoit de se lancer sur le marché mondial en pleine expansion du cannabis thérapeutique et du chanvre industriel, une initiative qui pourrait booster le PIB et générer de nouveaux emplois. Nous prévoyons d'augmenter considérablement notre PIB grâce au cannabis et aux produits liés au chanvre. Nous allons créer des emplois dans cette industrie, a assuré M. Boko. Le président a par ailleurs dit vouloir créer de nouveaux emplois dans la construction et encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Le Botswana s'associera aussi à Starlink, le fournisseur d'Internet par satellite d'Elon Musk, pour étendre l'accès à Internet à tout le territoire et devenir un centre numérique régional.
La marine sénégalaise a intercepté lundi 119 migrants clandestins à bord d'une pirogue sur la route maritime de l'Europe, a-t-elle indiqué mardi sur les réseaux sociaux. L'opération menée au large de Djifa, non loin du delta du Saloum, porte à 918 le nombre de migrants stoppés ou secourus en un mois, selon les informations fournies par la marine sur ses comptes après 5 interventions distinctes. Plus d'un centrafricain sur 5 est toujours déplacé, soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger, en raison de l'insécurité après plusieurs années de conflit, selon un rapport publié ce mardi par l'ONU OCHA, l'agence onusienne en charge de la coordination des affaires humanitaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, la police et des habitants de Port-au-Prince ont tué lundi 28 membres de gang. Ces derniers ont fait face à une riposte musclée après avoir lancé une offensive dans plusieurs quartiers de la capitale. Le point avec Jean-Roger Billon.
La police a ouvert le feu sur les membres des gangs, tuant 10 d'entre eux. Les autres ont été poursuivis puis tués par des habitants de Port-au-Prince, organisé en groupe d'autodéfense. Depuis la semaine passée, la capitale fait face à une nouvelle flambée de violence provoquée par Vivre Ensemble ou Vivre Ensemble en français, l'alliance des gangs formée en février qui est parvenue à renverser le premier ministre Ariel Henry. Cette coalition a lancé ces dernières heures une attaque contre Pétionville et d'autres quartiers comme Bourdon et Canapé Vert après un appel lancé sur les réseaux sociaux par l'un de ses leaders, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui exige la démission du conseil présidentiel de transition. Ces violences ont eu lieu dans un contexte de crise politique marqué par le limogeage du premier ministre Gary Conille le 10 novembre par le conseil présidentiel de transition. Il a été remplacé par l'homme d'affaires Alex Didier, fils aimé.
Toujours en Haïti, l'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé mardi soir qu'elle suspendait ses activités dans la capitale d'Haïti à la suite de violences et menaces des forces de police et après notamment que deux de ses patients ont été tués le 11 novembre dans ce pays en plein chaos. Le président brésilien, hôte du sommet du G20, a appelé hier à ne pas relâcher la pression pour faire aboutir les négociations sur le climat à Bakou, évoquant un combat pour la survie. C'était au deuxième jour d'un sommet qui n'a pas donné d'impulsion décisive sur le sujet. Les précisions de John Lindon.
Nous ne pouvons pas repousser la tâche de Bakou à Belém, où le Brésil accueillera en 2025, en forêt amazonienne, la prochaine conférence et climat COP30, a averti Luiz Inácio Lula da Silva. L'histoire nous regarde, a aussi lancé le président américain Joe Biden, évoquant la plus grande menace existentielle pour l'humanité. Les deux hommes s'exprimaient à l'ouverture de la dernière session plénière du sommet consacré au climat. Les attentes climatiques envers son sommet à Rio étaient donc grandes avant le retour à la Maison Blanche de Donald Trump et alors que la conférence de Bakou est entrée dans sa dernière ligne droite. Lula peut se targuer d'un succès avec un engagement dans la déclaration commune des dirigeants du G20 publiée lundi soir à coopérer, mais aucun engagement concret n'a été pris.
Tensions démographiques, impact grandissant du réchauffement, menace des technologies connectées, ces grandes tendances dessinent un avenir sombre pour les enfants de 2050, alerte l'UNICEF, appelant à agir maintenant pour construire un destin meilleur à la jeunesse de demain. Les enfants font face à une multitude de crises, des chocs climatiques, aux risques en ligne et ces menaces devraient s'amplifier dans les années à venir, a mis en garde mardi Catherine Roussel, directrice générale de l'agence onusienne chargée de l'enfance. L'Iran a engagé des mesures pour stopper l'expansion de son stock d'uranium hautement enrichi, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Au cours de la visite de son chef Raphaël Grossi la semaine dernière, l'agence a vérifié sur les sites nucléaires de Natanz et Fordo. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Jean-Roger Billon.
En Côte d'Ivoire, plus de 2000 participants sont attendus à la 6e édition du Forum international pour le leadership féminin le 12 décembre prochain. À cette occasion, plus de 100 petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes issues de secteurs variés participeront au forum. La valeur des exportations de café de l'Ouganda a progressé de 76,3% en octobre par rapport à l'année précédente grâce à une hausse des prix mondiaux de la marchandise, a déclaré le régulateur public. L'Ouganda gagne plus $1 milliard grâce aux expéditions de café chaque année. À Djibouti, des moustiques génétiquement modifiés utilisés pour enrayer le paludisme. Ce programme pilote vise à endiguer l'émergence d'espèces résistantes aux insecticides qui prospèrent dans les zones urbaines d'Afrique de l'Est. Les résultats de cette expérimentation sont attendus en mi-2025 et Djibouti entend construire une usine pour produire ces moustiques destinés au reste du continent.
Classe maintenant sport avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Les Congolaises du TP Mazembe et les Marocaines de l'AS FAR se donnent rendez-vous en finale de la Ligue des champions féminines de la CAF après leurs victoires respectives en demi-finale hier.
Les Congolaises du tout-puissant Mazembe de la RDC ont défait 3-1 les Edo Queens du Nigeria lors de leur demi-finale de cette Ligue des champions féminines de la CAF hier à Casablanca au Maroc. Elles se sont du coup hissées pour la première fois de leur histoire en finale de cette grande compétition sous la direction de l'entraîneur et ex-footballeuse marocaine Lamia Boumedi, tandis que les Marocaines de l'AS FAR, championnes en 2022, visent un nouveau sacre. L'AS FAR a battu difficilement 2-1 le FC Massar grâce à un but décisif dans le temps additionnel. Le FC Massar d'Égypte, une équipe surprise de cette édition, est la première formation égyptienne à atteindre les demi-finales de cette compétition.
Et puis la Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont décroché hier mardi les trois dernières places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc organisera en décembre 2025, janvier 2026.
La Tanzanie s'est qualifiée en battant la Guinée 1-0, terminant à 10 points, un de plus que la Guinée. Elle rejoint le Congo Kinshasa qui était déjà qualifié. Le Botswana a obtenu sa place en tenant en échec l'Égypte 1-1 dans le groupe C où l'Égypte, septuple lauréate du tournoi, a déjà composté son billet. Le Mozambique s'est qualifié en s'imposant sur le terrain de la Guinée-Bissau 2-1 dans le groupe I où le Mali était déjà qualifié. La surprise majeure est venue de Benghazi où le Soudan a validé sa qualification après un match nul contre l'Angola en Libye, éliminant le Ghana battu par le Niger 2-1. Le Ghana manquera la CAN pour la première fois en 20 ans. La compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Et enfin, le club libyen Al-Moroj Sporting Club signe l'attaquant du Dreams FC, John Antwi.
Le club libyen de première division Al-Moroj Sporting a finalisé la signature de l'attaquant ghanéen John Antwi du Dreams FC, basé à Daou, dans la région orientale du pays, qui participe à la première ligue du Ghana. John Antwi, qui a disputé 39 matchs de championnat avec le Dreams FC, a contribué de manière significative au jeu offensif du club, inscrivant 10 buts et délivrant 4 passes décisives. Il a joué un rôle clé dans les débuts du Dreams FC en Coupe de la Confédération de la CAF. John Antwi a participé à 10 matchs de la CAF, inscrivant 4 buts décisifs qui ont permis à son équipe de s'imposer dans le football africain.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, alors que le président élu Donald Trump se prépare à prendre ses fonctions, un processus soigneusement coordonné est en cours pour transférer le pouvoir de l'administration sortante à la nouvelle. Des experts partagent leur point de vue sur la manière dont le gouvernement fédéral se prépare à ce moment crucial de la démocratie américaine. Salem Solomon de VOA nous en dit plus. Le récit est de Jean-Roger Billon.
Une passation de pouvoir pacifique, une tradition enracinée, une promesse solennelle et un élément important de la démocratie américaine. Après l'élection d'un président américain, une activité intense prend corps avant qu'il ne prête serment. 76 jours entre l'élection et l'investiture peuvent sembler être un délai suffisant, mais la transition d'une administration à l'autre est tout sauf simple, explique Michael Shurkin, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale et est aujourd'hui directeur de programmes internationaux chez Fortinov Strategies, une société de conseil aux entreprises.
Nous voulons nous assurer que le président réussisse. Donc s'ils veulent revoir la politique, nous allons les aider à le faire en leur disant ce que nous savons et en leur expliquant ce qui se passe.
Le président élu n'entrera officiellement en fonction que le 20 janvier, mais la planification doit commencer bien plus tôt, explique Valérie Smith-Boyd, du centre en charge de la transition présidentielle.
C'est une tâche extrêmement vaste et la première chose que notre organisation a faite a été d'essayer d'encourager les candidats à la présidence à commencer ce processus de planification au début de l'année électorale. Bien sûr, ils ont pour objectif principal de remporter l'élection, mais ils doivent également créer une organisation distincte qui étudie comment examiner des centaines de milliers de CV pour sélectionner exactement les bonnes personnes pour traduire leurs promesses politiques en action.
Pourvoir des postes au sein de la fonction publique n'est pas une mince affaire. De nombreux postes nécessitent une confirmation du Sénat, tandis que d'autres doivent faire l'objet d'une vérification de sécurité, ce qui crée une période délicate, explique Mme Boyd.
Nous considérons les périodes de transition comme une période de vulnérabilité pour la nation, car les personnes nommées par le pouvoir politique et les hauts dirigeants quittent leur administration. Il peut y avoir des retards dans l'arrivée des nouvelles personnes, ce qui peut bien être sûr créer des difficultés de communication ou de compréhension des règles et des responsabilités.
Les États-Unis ont une longue tradition de transition pacifique du pouvoir qui remonte à la première en 1997 lorsque George Washington a transmis la présidence à John Adams. Selon Mme Boyd, une communication claire et efficace est essentielle à la réussite d'un transfert de pouvoir.
Dans le meilleur des cas, un transfert de pouvoir pacifique ressemble à une équipe entraînante et sortante, partageant des informations et travaillant en collaboration étroite pour bien protéger le pays et le monde de risques très graves.
Churkin souligne qu'en fin de compte, le bon fonctionnement d'une démocratie est plus important que la victoire à une élection.
Pour qu'une démocratie fonctionne, tout le monde doit à un certain niveau comprendre que tant que le système fonctionne, il est en quelque sorte plus important qu'eux. La santé du système est plus importante que le fait que votre candidat ait gagné ou perdu les élections. Et je pense que c'est l'une des raisons historiques pour lesquelles la démocratie américaine a été si stable et si relativement prospère.
Alors que la nation se prépare à la prochaine investiture présidentielle, le processus de transition rappelle l'existence des personnes qui, dans l'ombre, font fonctionner la démocratie.
Toujours aux États-Unis, le président élu Donald Trump entrera en fonction en janvier 2025 avec un contrôle unifié du Congrès américain. Les républicains détiendront la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Reportage de Catherine Gibson, récit Gabi Dorsil.
Le nouveau leader du Sénat américain à majorité républicaine, le sénateur John Thune.
Nous avons un mandat du peuple américain, un mandat non seulement pour nettoyer le gâchis laissé par l'agenda Biden, Harris, Schumer, mais aussi pour réaliser les priorités du président.
Monsieur Thune prend la tête du Sénat après que Mitch McConnell a occupé ce poste pendant 18 ans et il est déjà confronté à son premier test. Le président élu Donald Trump a proposé de contourner le rôle constitutionnel du Sénat qui consiste à approuver la nomination des ministres. Écoutons encore le sénateur Thune.
Le Sénat a un rôle de conseil et de consentement dans la Constitution. Donc, nous ferons tout ce que nous pouvons pour traiter rapidement les personnes proposées et les installer à leur poste afin qu'elles puissent commencer à mettre en œuvre son programme.
Les démocrates ont perdu leur majorité et détiendront 47 sièges au moins dans le nouveau Sénat. Chuck Schumer est l'actuel chef de la majorité.
Le peuple américain nous a lancé un défi. Nous devons en tirer les leçons.
Au cours des deux premières années de son premier mandat, Donald Trump a exercé un contrôle unifié sur le gouvernement. Mais un analyste affirme que cela ne signifie pas toujours que la Maison-Blanche obtiendra ce qu'elle veut au Capitole. Casey Burgat est directeur du programme des affaires législatives à l'université George Washington dans la capitale fédérale.
Mitch McConnell a déclaré qu'il soutenait l'agenda du président, qu'il travaillerait avec eux, mais nous avons ensuite vu des nominations politiques qu'il ne donnerait pas de vote s'il pensait que le président était allé trop loin.
Les républicains ont également obtenu la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, ce qui a valu des éloges à Donald Trump. Le président élu a soutenu le président de la Chambre, Mike Johnson, pour qu'il reprenne le flambeau. Voici ce qu'a déclaré M. Johnson.
Je pense que ce sera le congrès le plus important de l'ère moderne, l'administration la plus importante de l'ère moderne, parce que, franchement, nous devons réparer presque tous les domaines de la politique publique.
Mais les républicains détiennent une majorité plus étroite à la Chambre des représentants, avec seulement une poignée de sièges de plus que les démocrates, qui ont promis de continuer à se battre. La députée démocrate Pramila Jayapal.
Le bloc progressiste du Congrès continuera à défendre férocement la classe ouvrière et les pauvres.
Les membres de la 119e législature du Congrès américain prêteront serment le 3 janvier.
Dans Washington Forum cette semaine, les résultats des législatives au Sénégal. Les principaux partis d'opposition ont reconnu leur défaite face aux partis au pouvoir. Ce résultat ouvre désormais la voie au président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse faire passer des réformes ambitieuses. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité, malgré une campagne électorale marquée par des affrontements sporadiques entre partisans rivaux. Que dit ce scrutin de la démocratie sénégalaise? Quels seront désormais les axes prioritaires du gouvernement? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Alexandrine Poulognon et ses invités sur VOA Afrique, voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
La Russie a promis ce mardi une réponse appropriée à l'attaque sur son territoire menée par Kiev avec des missiles américains en Takhmis, estimant que le conflit est basculé dans une nouvelle phase et annonçant que les possibilités de recours à l'arme nucléaire étaient ainsi élargies. Pour une analyse, Eddie Sango a joint à Paris la directrice du centre de l'Institut français des relations internationales pour l'Eurasie, Tatiana Katueva.
Je pense qu'il y a le scénario qui est plausible que Donald Trump fasse ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire de réduire, si ce n'est pas coupé, l'aide à l'Ukraine. À ce moment-là, l'effondrement du front ukrainien ne prendra que quelques semaines. Mais il est fort possible que Donald Trump n'y arrive pas. Ce n'est pas une question de 24 heures. Et la Russie, elle est sur les positions extrêmement dures, extrêmement maximalistes. Elle va exiger... Elle va poser les conditions qui vont s'apparenter à la capitulation de l'Ukraine et je pense que Donald Trump risque de ne pas les accepter. Ne serait-ce que geler la ligne de contact, la ligne de front là où elle passe actuellement, ce sera déjà un défi parce que Vladimir Poutine veut bien plus. Il veut les quatre régions qu'il a annexées et c'est désormais inscrit dans la Constitution. Il les veut dans les frontières administratives. Ce que Donald Trump, à mon avis, ne peut pas se permettre sans apparaître comme un leader très faible.
Adam, est-ce que les Européens ont les moyens de supplanter financièrement et militairement les États-Unis?
Malheureusement, les Européens sont bien derrière quand on regarde les volumes d'aide militaire et financière à l'Ukraine. Et je pense qu'en dépit de toutes les bonnes volontés de la nouvelle composition de la Commission européenne, ils n'arriveront pas à prendre pleinement le relais des États-Unis. Donc leur aide, si elle continue un petit peu, va encore permettre à l'Ukraine de résister pendant un moment, mais ne permettra pas de gagner et ne permettra pas de se mettre à la table de négociations dans de bonnes conditions. En fait, le grand risque pour l'Ukraine et pour l'Europe aujourd'hui, c'est que la négociation se fasse par-dessus leur tête, sans leur participation, entre les Russes et les Américains.
Pourquoi Biden autorise-t-il seulement maintenant? Est-ce que cette autorisation peut changer les cours de la guerre?
Écoutez, elle a été prise maintenant parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité entre l'élection de Donald Trump et son entrée en fonction. Et c'était à peu près prévisible que ce sera une sorte de dernier cadeau, entre guillemets, de la présidence sortante de Joe Biden pour l'Ukraine. Il n'a pas remis la question sur la table avant les élections, car cela pouvait être le sujet extrêmement clivant et qui aurait pu jouer contre les démocrates. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment le dernier effort d'aider à l'Ukraine, c'est d'autoriser ses frappes en profondeur. Et par ailleurs, à mon avis, il fera tout pour débloquer le maximum de financement américain promis avant son départ. Néanmoins, ce qu'on constate depuis le début de cette guerre, c'est que l'aide occidentale et l'aide américaine en particulier arrivent avec beaucoup de retard. Les décisions sont prises tardivement et les quantités ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Ukraine de s'en sortir bien dans cette guerre. Je pense que les frappes en profondeur ne changeront pas le cours de la guerre.
C'était la directrice du Centre de l'Institut français des relations internationales pour l'Eurasie, Tatiana Katueva. Intéressons-nous maintenant à une ville de la RDC avec ses 310 km², l'île d'Idjoui, en plein milieu du lac Kivu dans la province du Sud Kivu, peut vivre du tourisme. Au reportage de notre correspondant dans la région, Zanem Neti Zaidi.
Pour relier les deux grandes villes de l'est de la RDC, Goma et Bukavu, via le lac Kivu, on doit inévitablement passer le long de l'île d'Idjoui et contempler toute sa beauté. De nombreux habitants de l'île vivent de la pêche dès le bas âge. Maisha Kadogo, aujourd'hui père des 4 enfants, se souvient.
J'avais 12 ans lorsque j'ai développé la curiosité des pêcheurs. À l'époque, j'aidais au démaillage des poissons et j'ai gagné entre 500 et 1000 francs congolais. C'est ainsi que j'ai commencé moi-même à pêcher. Jusqu'aujourd'hui, je suis resté pêcheur.
Comme tous les autres insulaires, ils se sentent heureux de voir leur île faire petit à petit objet de curiosité des visiteurs.
Chaque fois qu'il y a des nouveaux visiteurs sur notre île, nous sommes très contents. Parce qu'ici à Idjoui, il n'y a aucun problème, il y a la paix et la tranquillité.
Pour attirer le plus des touristes sur l'île d'Idjoui, certains entrepreneurs locaux se sont lancés dans l'hôtellerie et l'aménagement des sites touristiques, un processus qui nécessite l'accompagnement du gouvernement de Kinshasa, selon Kavuo Kyoene, une femme entrepreneuse qui fait la promotion du tourisme sur l'île d'Idjoui.
La promotion du tourisme, c'est vraiment un très grand travail. Il faut la participation de tout le monde et là nous disons merci parce que le gouvernement a déjà mis l'île d'Idjoui sur la liste des 4 zones pilotes d'expansion touristique. Mais jusque-là, il n'y a pas encore des aménageurs. Nous demandons au gouvernement qu'au lieu que ça soit théorique, il faudrait que d'abord le décret sorte pour pouvoir attirer les investisseurs.
Bien que situé dans l'est de la République démocratique du Congo, Idjoui reste le rare territoire qui n'a jamais connu de guerre, les secrets étant, selon l'administrateur du territoire, Maambole Oumoustapha, le caractère de la population locale.
Mais nous devons dire à tout le monde que grâce à cette population et prix de la culture et de la paix, il y a un territoire où il n'y a pas coup de balle, où on ne les entend jamais. Je crois que le secret se cache dans les comportements des individus qui y vivent.
En plus de la pêche, les habitants d'Idjoui vivent également de l'agriculture avec la production des cafés et d'ananas pour lesquels leur île est réputée dans la région des Grands Lacs. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezelo, à la mise en onde, Lionel Unanila Gahima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Bonjour à tous et à tous. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 21 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le chef de l'opposition mozambicaine appelle à 3 jours de deuil à partir d'aujourd'hui pour les 50 personnes qui, selon lui, ont été tuées dans les violences post-électorales. En Haïti, la police et des habitants de Port-au-Prince ont tué 28 membres de gang. Le président brésilien, hôte du sommet du G20, appelle à ne pas relâcher la pression pour faire aboutir les négociations sur le climat à Bakou. Et dans notre partie magazine, ici aux États-Unis, alors que le président élu Donald Trump se prépare à prendre ses fonctions, un processus soigneusement coordonné est en cours pour transférer le pouvoir de l'administration sortante à la nouvelle.
Nous voulons nous assurer que le président réussisse. Donc s'ils veulent revoir la politique, nous allons les aider à le faire en leur disant ce que nous savons et en leur expliquant ce qui se passe.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le chef de l'opposition mozambicaine appelle à 3 jours de deuil à partir d'aujourd'hui pour les 50 personnes qui, selon lui, ont été tuées dans les violences post-électorales. Le président Philippe Nyusi a de son côté appelé au dialogue pour mettre fin à des semaines d'agitation. Alexandrine Holognon.
Dans un discours prononcé mardi sur Facebook, Venancio Mondlane a de nouveau exigé un recomptage des voix du scrutin du 9 octobre qui, selon la commission électorale, a été remportée par le parti Frelimo au pouvoir depuis près d'un demi-siècle. Le président Nyusi, dans un discours sur l'état de la nation prononcé plus tard dans la journée de mardi, a condamné une tentative d'installer le chaos dans le pays. Il a appelé au calme jusqu'à l'annonce des résultats définitifs et a demandé aux partis d'exercer leur droit de manifester dans le respect de la loi. Les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe se réunissent ce mercredi à Harare pour un sommet qui devrait aborder les troubles au Mozambique, entre autres questions régionales. Kenyo Farise, directeur adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, a déclaré que le sommet devait prendre des mesures concrètes concernant ces violations des droits de l'homme, notamment en les dénonçant.
Le commandant de l'armée soudanaise et dirigeant de facto du pays, Abdel Fattah al-Burhan, a rejeté ce mardi toute ingérence étrangère dans la guerre au Soudan au lendemain du veto russe à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu. Il a par ailleurs salué la position de soutien de la Russie. Le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU préparé par le Royaume-Uni et la Sierra Leone appelait les parties à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager dans un dialogue sur un cessez-le-feu national. Le général Burhan a réitéré que l'armée ne négocierait ni n'accepterait un cessez-le-feu sans un retrait total des paramilitaires des forces de soutien rapide. Le chef du principal parti d'opposition, Abdirahman Mohamed Abdoulaye Diiro, a été élu président du Somaliland, région sécessionniste de la Somalie au cœur de vives tensions dans la Corne de l'Afrique. Avec 63,92% des suffrages, cet ancien diplomate âgé de 68 ans dévance largement le président sortant Moussé Bihi, qui a obtenu 34,81% et au pouvoir depuis 2017. Le leader du parti de la justice sociale, Faisal Ali Warabe, s'en sort avec 0,74% selon des résultats annoncés par le président de la commission électorale. Territoire de la pointe nord-ouest de la Somalie, le Somaliland a autoproclamé son indépendance en 1991, mais n'est reconnu par aucun pays. Le Botswana veut diversifier son économie actuellement dépendante du diamant en se lançant sur le marché du cannabis. thérapeutiques et de l'énergie solaire, a annoncé hier le président Douma Boko lors de son premier discours à la nation. Les détails avec Nani Talani.
Dans son discours, Douma Boko a souligné la nécessité de réduire la dépendance aux diamants, dont les revenus ont chuté de plus de 60% ces dernières années en raison de la concurrence des pierres synthétiques. Le Botswana, qui bénéficie de plus de 3200 heures de soleil par an, met également l'accent sur le potentiel de l'énergie solaire pour stimuler son développement. En parallèle, le Botswana prévoit de se lancer sur le marché mondial en pleine expansion du cannabis thérapeutique et du chanvre industriel, une initiative qui pourrait booster le PIB et générer de nouveaux emplois. Nous prévoyons d'augmenter considérablement notre PIB grâce au cannabis et aux produits liés au chanvre. Nous allons créer des emplois dans cette industrie, a assuré M. Boko. Le président a par ailleurs dit vouloir créer de nouveaux emplois dans la construction et encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Le Botswana s'associera aussi à Starlink, le fournisseur d'Internet par satellite d'Elon Musk, pour étendre l'accès à Internet à tout le territoire et devenir un centre numérique régional.
La marine sénégalaise a intercepté lundi 119 migrants clandestins à bord d'une pirogue sur la route maritime de l'Europe, a-t-elle indiqué mardi sur les réseaux sociaux. L'opération menée au large de Djifa, non loin du delta du Saloum, porte à 918 le nombre de migrants stoppés ou secourus en un mois, selon les informations fournies par la marine sur ses comptes après 5 interventions distinctes. Plus d'un centrafricain sur 5 est toujours déplacé, soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger, en raison de l'insécurité après plusieurs années de conflit, selon un rapport publié ce mardi par l'ONU OCHA, l'agence onusienne en charge de la coordination des affaires humanitaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, la police et des habitants de Port-au-Prince ont tué lundi 28 membres de gang. Ces derniers ont fait face à une riposte musclée après avoir lancé une offensive dans plusieurs quartiers de la capitale. Le point avec Jean-Roger Billon.
La police a ouvert le feu sur les membres des gangs, tuant 10 d'entre eux. Les autres ont été poursuivis puis tués par des habitants de Port-au-Prince organisés en groupe d'autodéfense. Depuis la semaine passée, la capitale fait face à une nouvelle flambée de violence provoquée par Vivre Ensemble ou Vivre Ensemble en français, l'alliance des gangs formée en février qui est parvenue à renverser le premier ministre Ariel Henry. Cette coalition a lancé ces dernières heures une attaque contre Pétionville et d'autres quartiers comme Bourdon et Canapé Vert après un appel lancé sur les réseaux sociaux par l'un de ses leaders, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui exige la démission du conseil présidentiel de transition. Ces violences ont eu lieu dans un contexte de crise politique marqué par le limogeage du premier ministre Gary Conille le 10 novembre par le conseil présidentiel de transition. Il a été remplacé par l'homme d'affaires Alex Didier, fils aimé.
Toujours en Haïti, l'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé mardi soir qu'elle suspendait ses activités dans la capitale d'Haïti à la suite de violences et menaces des forces de police et après notamment que deux de ses patients ont été tués le 11 novembre dans ce pays en plein chaos. Le président brésilien, hôte du sommet du G20, a appelé hier à ne pas relâcher la pression pour faire aboutir les négociations sur le climat à Bakou, évoquant un combat pour la survie. C'était au deuxième jour d'un sommet qui n'a pas donné d'impulsion décisive sur le sujet. Les précisions de John Lyndon.
Nous ne pouvons pas repousser la tâche de Bakou à Belém, où le Brésil accueillera en 2025, en forêt amazonienne, la prochaine conférence et climat COP30, a averti Luiz Inácio Lula da Silva. L'histoire nous regarde, a aussi lancé le président américain Joe Biden, évoquant la plus grande menace existentielle pour l'humanité. Les deux hommes s'exprimaient à l'ouverture de la dernière session plénière du sommet consacré au climat. Les attentes climatiques envers son sommet à Rio était donc grande avant le retour à la Maison Blanche de Donald Trump et alors que la conférence de Bakou est entrée dans sa dernière ligne droite. Lula peut se targuer d'un succès avec un engagement dans la déclaration commune des dirigeants du G20 publiée lundi soir à coopérer, mais aucun engagement concret n'a été pris.
Tension démographique, impact grandissant du réchauffement, menace des technologies connectées. Ces grandes tendances dessinent un avenir sombre pour les enfants de 2050, alerte l'UNICEF, appelant à agir maintenant pour construire un destin meilleur à la jeunesse de demain. Les enfants font face à une multitude de crises, des chaos, des chocs climatiques. Au risque en ligne et ces menaces devraient s'amplifier dans les années à venir, a mis en garde mardi Catherine Roussel, directrice générale de l'agence onusienne chargée de l'enfance. L'Iran a engagé des mesures pour stopper l'expansion de son stock d'uranium hautement enrichi, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Au cours de la visite de son chef Raphaël Grossi la semaine dernière, l'agence a vérifié sur les sites nucléaires d'Ondatans et Fordo. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Jean-Roger Billon.
En Côte d'Ivoire, plus de 2000 participants sont attendus à la 6e édition du Forum international pour le leadership féminin le 12 décembre prochain. À cette occasion, plus de 100 petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes issues de secteurs variés participeront au forum. La valeur des exportations de café de l'Ouganda a progressé de 76,3% en octobre par rapport à l'année précédente grâce à une hausse des prix mondiaux de la marchandise, a déclaré le régulateur public. L'Ouganda gagne plus d'un milliard de dollars grâce aux expéditions de café chaque année. À Djibouti, des moustiques génétiquement modifiés utilisés pour enrayer le paludisme. Ce programme pilote vise à endiguer l'émergence d'espèces résistantes aux insecticides qui prospèrent dans les zones urbaines d'Afrique de l'Est. Les résultats de cette expérimentation sont attendus en mi-2025 et Djibouti entend construire une usine pour produire ces moustiques destinés au reste du continent.
Place maintenant au sport avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Les Congolaises du TP Mazembe et les Marocaines de l'AS FAR se donnent rendez-vous en finale de la Ligue des champions féminines de la CAF après leurs victoires respectives en demi-finale hier.
Les Congolaises du tout-puissant Mazembe de la RDC ont défait 3-1 les Edo Queens du Nigeria lors de leur demi-finale de cette Ligue des champions féminines de la CAF hier à Casablanca au Maroc. Elles se sont du coup hissées pour la première fois de leur histoire en finale de cette grande compétition sous la direction de l'entraîneur et ex-footballeuse marocaine Lamia Boumedi, tandis que les Marocaines de l'ASFAR, championnes en 2022, visent un nouveau sacre. L'ASFAR a battu difficilement 2-1 le FC Massar grâce à un but décisif dans le temps additionnel. Le FC Massar d'Égypte, une équipe surprise de cette édition, est la première formation égyptienne à atteindre les demi-finales de cette compétition.
Et puis la Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont décroché hier mardi les trois dernières places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc organisera en décembre 2025, janvier 2026.
La Tanzanie s'est qualifiée en battant la Guinée 1-0, terminant à 10 points, un de plus que la Guinée. Elle rejoint le Congo Kinshasa qui était déjà qualifié. Le Botswana a obtenu sa place en tenant en échec l'Égypte 1-1 dans le groupe C où l'Égypte, septuple lauréate du tournoi, a déjà composté son billet. Le Mozambique s'est qualifié en s'imposant sur le terrain de la Guinée-Bissau 2-1 dans le groupe I où le Mali était déjà qualifié. La surprise majeure est venue de Benghazi où le Soudan a validé sa qualification après un match nul contre l'Angola en Libye, éliminant le Ghana battu par le Niger 2-1. Le Ghana manquera la CAN pour la première fois en 20 ans. La compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Et enfin, le club libyen Al-Moroj Sporting Club signe l'attaquant du Dreams FC, John Antwi.
Le club libyen de première division Almoroj Sporting a finalisé la signature de l'attaquant ghanéen John Ntui du Dreams FC basé à Daou dans la région orientale du pays qui participe à la première ligue du Ghana. John Ntui, qui a disputé 39 matchs de championnat avec le Dreams FC, a contribué de manière significative au jeu offensif du club, inscrivant 10 buts et délivrant 4 passes décisives. Il a joué un rôle clé dans les débuts du Dreams FC en Coupe de la Confédération de la CAF. John Ntui a participé à 10 matchs de la CAF, inscrivant 4 buts décisifs qui ont permis à son équipe de s'imposer dans le football africain.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, alors que le président élu Donald Trump se prépare à prendre ses fonctions, un processus soigneusement coordonné est en cours pour transférer le pouvoir de l'administration sortante à la nouvelle. Des experts partagent leur point de vue sur la manière dont le gouvernement fédéral se prépare à ce moment crucial de la démocratie américaine. Salem Solomon de VOA nous en dit plus. Le récit est de Jean-Roger Billon.
Une passation de pouvoir pacifique, une tradition enracinée, une promesse solennelle et un élément important de la démocratie américaine. Après l'élection d'un président américain, une activité intense prend corps avant qu'il ne prête serment. 76 jours entre l'élection et l'investiture peuvent sembler être un délai suffisant, mais la transition d'une administration à l'autre est tout sauf simple, explique Michael Shurkin, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale et est aujourd'hui directeur de programmes internationaux chez Fortinov Strategies, une société de conseil aux entreprises.
Nous voulons nous assurer que le président réussisse. Donc s'ils veulent revoir la politique, nous allons les aider à le faire en leur disant ce que nous savons et en leur expliquant ce qui se passe.
Le président élu n'entrera officiellement en fonction que le 20 janvier, mais la planification doit commencer bien plus tôt, explique Valérie Smith-Boyd, du centre en charge de la transition présidentielle.
C'est une tâche extrêmement vaste et la première chose que notre organisation a faite a été d'essayer d'encourager les candidats à la présidence à commencer ce processus de planification au début de l'année électorale. Bien sûr, ils ont pour objectif principal de remporter l'élection, mais ils doivent également créer une organisation distincte qui étudie comment examiner des centaines de milliers de CV pour sélectionner exactement les bonnes personnes pour traduire leurs promesses politiques en action.
Pourvoir des postes au sein de la fonction publique n'est pas une mince affaire. De nombreux postes nécessitent une confirmation du Sénat, tandis que d'autres doivent faire l'objet d'une vérification de sécurité, ce qui crée une période délicate, explique Mme Boyd.
Nous considérons les périodes de transition comme une période de vulnérabilité pour la nation, car les personnes nommées par le pouvoir politique et les hauts dirigeants quittent leur administration. Il peut y avoir des retards dans l'arrivée des nouvelles personnes, ce qui peut bien être sûr créer des difficultés de communication ou de compréhension des règles et des responsabilités.
Les États-Unis ont une longue tradition de transition pacifique du pouvoir qui remonte à la première en 1997 lorsque George Washington a transmis la présidence à John Adams. Selon Mme Boyd, une communication claire et efficace est essentielle à la réussite d'un transfert de pouvoir.
Dans le meilleur des cas, un transfert de pouvoir pacifique ressemble à une équipe entraînante et sortante, partageant des informations et travaillant en collaboration étroite pour bien protéger le pays et le monde de risques très graves.
Churkin souligne qu'en fin de compte, le bon fonctionnement d'une démocratie est plus important que la victoire à une élection.
Pour qu'une démocratie fonctionne, tout le monde doit à un certain niveau comprendre que tant que le système fonctionne, il est en quelque sorte plus important qu'eux. La santé du système est plus importante que le fait que votre candidat ait gagné ou perdu les élections. Et je pense que c'est l'une des raisons historiques pour lesquelles la démocratie américaine a été si stable et si relativement prospère.
Alors que la nation se prépare à la prochaine investiture présidentielle, le processus de transition rappelle l'existence des personnes qui, dans l'ombre, font fonctionner la démocratie.
Toujours aux États-Unis, le président élu Donald Trump entrera en fonction en janvier 2025 avec un contrôle unifié du Congrès américain. Les républicains détiendront la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Reportage de Catherine Gibson, récit Gabi Dorsil.
Le nouveau leader du Sénat américain à majorité républicaine, le sénateur John Thune.
We have a mandate from the American people.
Nous avons un mandat du peuple américain, un mandat non seulement pour nettoyer le gâchis laissé par l'agenda Biden, Harris, Schumer, mais aussi pour réaliser les priorités du président.
M. Thune prend la tête du Sénat après que Mitch McConnell a occupé ce poste pendant 18 ans et il est déjà confronté à son premier test. Le président élu Donald Trump a proposé de contourner le rôle constitutionnel du Sénat qui consiste à approuver la nomination des ministres. Écoutons encore le sénateur Thune.
Le Sénat a un rôle de conseil et de consentement dans la Constitution. Donc, nous ferons tout ce que nous pouvons pour traiter rapidement les personnes proposées et les installer à leur poste afin qu'elles puissent commencer à mettre en œuvre son programme.
Les démocrates ont perdu leur majorité et détiendront 47 sièges au moins dans le nouveau Sénat. Chuck Schumer est l'actuel chef de la majorité.
Le peuple américain nous a lancé un défi. Nous devons en tirer les leçons.
Au cours des deux premières années de son premier mandat, Donald Trump a exercé un contrôle unifié sur le gouvernement. Mais un analyste affirme que cela ne signifie pas toujours que la Maison-Blanche obtiendra ce qu'elle veut au Capitole. Casey Burgat est directeur du programme des affaires législatives à l'université George Washington dans la capitale fédérale.
Mitch McConnell a déclaré qu'il soutenait l'agenda du président, qu'il travaillerait avec eux, mais nous avons ensuite vu des nominations politiques qu'il ne donnerait pas de vote s'il pensait que le président était allé trop loin.
Les républicains ont également obtenu la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, ce qui a valu des éloges à Donald Trump. Le président élu a soutenu le président de la Chambre, Mike Johnson, pour qu'il reprenne le flambeau. Voici ce qu'a déclaré M. Johnson.
Je pense que ce sera le congrès le plus important de l'ère moderne, l'administration la plus importante de l'ère moderne, parce que, franchement, nous devons réparer presque tous les domaines de la politique publique.
Mais les républicains détiennent une majorité plus étroite à la Chambre des représentants, avec seulement une poignée de sièges de plus que les démocrates, qui ont promis de continuer à se battre. La députée démocrate Pramila Jayapal.
Le bloc progressiste du Congrès continuera à défendre férocement la classe ouvrière et les pauvres.
Les membres de la 119e législature du Congrès américain prêteront serment le 3 janvier.
Dans Washington Forum cette semaine, les résultats des législatives au Sénégal. Les principaux partis d'opposition ont reconnu leur défaite face aux partis au pouvoir. Ce résultat ouvre désormais la voie au président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse faire passer des réformes ambitieuses. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité malgré une campagne électorale marquée par des affrontements sporadiques entre partisans rivaux. Que dit ce scrutin de la démocratie sénégalaise? Quels seront désormais les axes prioritaires du gouvernement? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Alexandrine Fonlognon et ses invités sur VOA Afrique, voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
La Russie a promis ce mardi une réponse appropriée à l'attaque sur son territoire menée par Kiev avec des missiles américains à Takhmis, estimant que le conflit est basculé dans une nouvelle phase et annonçant que les possibilités de recours à l'arme nucléaire étaient ainsi élargies. Pour une analyse, Eddie Sango a joint à Paris la directrice du centre de l'Institut français des relations internationales pour l'Eurasie, Tatiana Katueva.
Je pense qu'il y a le scénario qui est plausible que Donald Trump fasse ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire de réduire, si ce n'est pas coupé, l'aide à l'Ukraine. À ce moment-là, l'effondrement du front ukrainien ne prendra que quelques semaines. Mais il est fort possible que Donald Trump n'y arrive pas. Ce n'est pas une question de 24 heures. Et la Russie, elle est sur les positions extrêmement dures, extrêmement maximalistes. Elle va exiger, elle va poser les conditions qui vont s'apparenter à la capitulation de l'Ukraine. Et je pense que Donald Trump risque de ne pas les accepter. Ne serait-ce que geler la ligne de contact, la ligne de front, là où elle passe actuellement, ce sera déjà un défi, parce que Vladimir Poutine veut bien plus. Il veut les quatre régions qu'il a annexées, et c'est désormais inscrit dans la Constitution, il les veut dans les frontières administratives. Ce que Donald Trump, à mon avis, ne peut pas se permettre sans apparaître comme un leader très faible.
Adam, est-ce que les Européens ont les moyens de supplanter financièrement et militairement les États-Unis?
Malheureusement, les Européens sont bien derrière quand on regarde les volumes d'aide militaire et financière à l'Ukraine. Et je pense qu'en dépit de toutes les bonnes volontés de la nouvelle composition de la Commission européenne, ils n'arriveront pas à prendre pleinement le relais des États-Unis. Donc leur aide, si elle continue un petit peu, va encore permettre à l'Ukraine de résister pendant un moment, mais ne permettra pas de gagner et ne permettra pas de se mettre à la table de négociation dans de bonnes conditions. En fait, le grand risque pour l'Ukraine et pour l'Europe aujourd'hui, c'est que la négociation se fasse par-dessus leur tête, sans leur participation, entre les Russes et les Américains.
Pourquoi Biden autorise-t-il seulement maintenant? Est-ce que cette autorisation peut changer les cours de la guerre?
Écoutez, elle a été prise maintenant parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité entre l'élection de Donald Trump et son entrée en fonction. Et c'était à peu près prévisible que ce sera une sorte de dernier cadeau, entre guillemets, de la présidence sortante de Joe Biden pour l'Ukraine. Il n'a pas remis la question sur la table avant les élections, car cela pouvait être le sujet extrêmement clivant et qui aurait pu jouer contre les démocrates. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment le dernier effort d'aider à l'Ukraine, c'est d'autoriser ses frappes en profondeur. Et par ailleurs, à mon avis, il fera tout pour débloquer le maximum de financement américain promis avant son départ. Néanmoins, ce qu'on constate depuis le début de cette guerre, c'est que l'aide occidentale et l'aide américaine en particulier arrivent avec beaucoup de retard. Les décisions sont prises tardivement et les quantités ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Ukraine de s'en sortir bien dans cette guerre. Je pense que les frappes en profondeur ne changeront pas le cours de la guerre.
C'était la directrice du Centre de l'Institut français des relations internationales pour l'Eurasie, Tatiana Katueva. Intéressons-nous maintenant à une ville de la RDC avec ses 310 km², l'île d'Idjoui, en plein milieu du lac Kivu, dans la province du Sud Kivu, peut vivre du tourisme. Au reportage de notre correspondant dans la région, Zanem Neti Zaidi.
Pour relier les deux grandes villes de l'est de la RDC, Goma et Bukavu, via le lac Kivu, on doit inévitablement passer le long de l'île d'Idjoui et contempler toute sa beauté. De nombreux habitants de l'île vivent de la pêche dès le bas âge. Maisha Kadogo, aujourd'hui père des quatre enfants, se souvient.
J'avais 12 ans lorsque j'ai développé la curiosité des pêcheurs. À l'époque, j'aidais au démaillage des poissons et j'ai gagné entre 500 et 1000 francs congolais. C'est ainsi que j'ai commencé moi-même à pêcher. Jusqu'aujourd'hui, je suis resté pêcheur.
Comme tous les autres insulaires, ils se sentent heureux de voir leur île faire petit à petit objet de curiosité des visiteurs.
Chaque fois qu'il y a des nouveaux visiteurs sur notre île, nous sommes très contents. Parce qu'ici à Idjoui, il n'y a aucun problème, il y a la paix et la tranquillité.
Pour attirer le plus des touristes sur l'île d'Idjoui, certains entrepreneurs locaux se sont lancés dans l'hôtellerie et l'aménagement des sites touristiques, un processus qui nécessite l'accompagnement du gouvernement de Kinshasa, selon Kavuo Kyoene, une femme entrepreneuse qui fait la promotion du tourisme sur l'île d'Iju.
La promotion du tourisme, c'est vraiment un très grand travail. Il faut la participation de tout le monde. Et là, nous disons merci parce que le gouvernement a déjà mis l'île d'Iju sur la liste des 4 zones pilotes d'expansion touristique. Mais jusque-là, il n'y a pas encore des aménageurs. Nous demandons au gouvernement, au lieu que ça soit théorique, il faudrait que d'abord le décret sorte pour pouvoir attirer les investisseurs.
Bien que situé dans l'est de la République démocratique du Congo, Idjui reste le rare territoire qui n'a jamais connu de guerre, les secrets étant, selon l'administrateur du territoire, Mahambolé Oumoussafa, le caractère de la population locale.
Mais nous devons dire à tout le monde que grâce à cette population et prix de la culture et de la paix, il y a un territoire où il n'y a pas que des balles, on ne les entend jamais. Je crois que le secret se cache dans les comportements des individus qui y vivent.
En plus de la pêche, les habitants d'Idjui vivent également de l'agriculture avec la production des cafés et d'ananas pour lesquels leur île est réputée dans la région des Grands Lacs. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezelo, à la mise en onde, Lionel Nanilaganima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, excellent Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.